Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, bonjour. Où en êtes-vous avec lui? Je sais, c'est une question très intime. L'aimez-vous? Le bichonnez-vous? Le détestez-vous? D'où vient-il le vôtre de la pharmacie, de la boutique mode du coin? Est-il bleu jetable, noir ou blanc, ou bien d'un imprimé stylé? C'est notre nouveau doudou. Il nous insupporte et il nous sauve. On va bientôt le porter partout, dans les lieux clos. Le masque superstar de la crise Covid, passé en 4 mois d'introuvable à omniprésent et surtout devenu indispensable après avoir été taxé d'inutile. Olivier Véran, le 6 mars dernier.
Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile.
Eh oui, un ministre de la Santé médecin peut se tromper, surtout à l'époque où les masques étaient frappés de pénurie. Au menu ce matin de Culture Média, l'affaire du pont de Ligonnès passionne les Américains qui la découvrent sur Netflix. La plateforme consacre l'un des épisodes de sa série « Les enquêtes extraordinaires » à la tuerie de Nantes. Nous serons avec une spécialiste du dossier, la journaliste Anne-Sophie Martin. Cette fois, il est tout seul comme un grand. Nouveau format de divertissement musical ce soir sur TF1, Good Singers. À la présentation en prime, l'animateur humoriste Jarry. Jarry arrive dans une vingtaine de minutes. Et puis dans la partie culture, après 10 heures, le chanteur, auteur, producteur surdoué Woodkid. 7 ans après son premier album, enfin de nouveaux titres. Culture Média d'été pour 2 heures en direct sur Europe 1, ça commence maintenant. Bonjour Martin Cangelosi.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Qu'y a-t-il au sommaire de votre journal des médias ce matin?
Netflix qui dévisse, un politique peut cacher un chroniqueur, à moins vous verrez que ce ne soit l'inverse. Et l'intimité dévoilée d'un médaillé de 2m04 et 131 kilos.
Belle bête. Et on commence par les audiences, évidemment.
Évidemment. Hier, c'est TF1 qui s'impose avec le film L'élève du Cobu, 3 400 000 téléspectateurs. France 3 est deuxième, comme bien souvent ces derniers jours. 2 800 000 téléspectateurs devant le téléfilm Né sous silence. Et France 2 ferme la marche avec Taratata 100% live. Presque 2 millions de téléspectateurs devant Nagui.
Culture Média. Netflix plonge en bourse, Martin.
Moins 9% hier. Alors certes, aidé par le confinement, Netflix a séduit en 6 mois autant de nouveaux abonnés que sur toute l'année 2019. Prouesse donc, pourrait-on dire. Mais cet été, avec la rouverture des cinémas, la réouverture des cinémas et le retour à une vie un peu plus normale, nous devrions être moins nombreux qu'en début d'année à prendre un abonnement chez Netflix. Bref, les bourses sont en train d'anticiper de manière sévère des résultats décevants.
Autre plateforme, Spotify, qui annonce le lancement d'un podcast événement en exclusivité.
Et ce sera dans à peine 10 jours avec Michelle Obama. Ça s'appellera d'ailleurs The Michelle Obama Podcast. C'est classe, non, comme mot?
Pourquoi faire compliqué, hein?
Imaginez The Pascal Clark Podcast, ça sonnerait bien aussi. Ce sera une série de conversations avec des invités chics, comme des journalistes ou des avocats célèbres aux États-Unis. Michelle Obama présente ainsi ce podcast sur Spotify, je cite, « un espoir pour trouver des réponses aux questions du quotidien ».
Et elle est payée combien pour ça, Michel?
Cher, sûrement.
Cher, très très cher, probablement. Rien à voir, on continue avec le milieu de la télé en deuil. Soyez courageux.
Rosa, la célèbre vachette d'Intervalle, encore là en 2013.
Intervalle?
J'ai dit Intervalle pour Interville. J'en suis ému moi-même. La célèbre vachette d'Intervalle, qui était encore là en 2013 pour la Der des Der, avec sa tête marron et son pelage blanc. Eh bien, Rosa s'en est allée à 19 ans, elle qui passait une retraite paisible dans son pré du sud-ouest. Le ruminant a été victime d'une vilaine infection digestive. L'un de ses éleveurs, ne rigolez pas, Teddy, est à notre micro.
On a perdu un membre de la famille, c'est vraiment ça. Moi j'ai pleuré, quoi. Moi, j'en ai pleuré. J'ai passé 2 journées affreuses, quoi, où je pleurais, j'allais la voir, je me disais c'est fini, puis elle était toujours en vie, puis je revenais la voir, puis elle était toujours là, puis je pleurais encore. Et je me suis dit, mais c'est un animal, il ne faut pas se mettre, mais si, je ne pouvais pas retenir, quoi. C'était Rosa, quoi. C'était, je vous en parle, je pensais pas être aussi triste. Les réseaux sociaux commencent à réagir, mais on s'attendait vraiment pas à une telle réaction. Et on est content pour elle parce qu'elle le mérite. D'autres qui disent, elle nous a bien fait rire. Enfin, ils ont des souvenirs précis et c'est touchant et c'est chouette pour elle parce que vraiment, c'était une vache extraordinaire, extraordinaire.
L'émotion pas feinte de Teddy, l'éleveur de Rosa d'Interville, donc, alors 19 ans quand même. C'est tout de même un âge honorable pour une vache des Landes.
R.I.P. Rosa. Rest in peace.
Un mémorial va être d'ailleurs installé près de son enclos.
Ah bah oui, ça le vaut bien. On continue avec Gaspard Ganzer qui voulait être maire de Paris et qui finalement rejoint l'équipe de Cyril Hanouna.
Ah, c'est aussi l'ex-porte-parole de François Hollande. Il était l'ex-tête de liste au municipal à Paris pour La République En Marche. Il sera désormais chroniqueur dans Balance ton poste chaque vendredi soir sur C8 avec Hanouna. Ce sera le troisième politique à se recycler dans l'émission après Raquel Garrido de la France Insoumise et Laurence Saillé des Républicains. Gaspard Ganzer, qui il y a quelques minutes dans Le Parisien, dit vouloir reprendre sa liberté et son indépendance.
Sa liberté de penser. Certains passent de la politique aux médias, d'autres c'est l'inverse.
Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction de Libération et directeur de la publication pour encore quelques heures, va annoncer dimanche soir qu'il se lance en politique. Voilà ce qu'on lit dans Le Figaro ce matin. Alors ce ne sera pas un parti politique, pas encore en tout cas. Tout va commencer avec un texte transmis à l'AFP. Dans ce texte, un appel à la refondation, je cite, d'une gauche sociale, écologiste et républicaine. Conférence de presse lundi pour en savoir un peu plus.
Et l'on termine, Martin, avec un documentaire exceptionnel que nous propose France Télévisions sur l'un des plus grands champions français.
Sur Teddy Riner. Teddy Riner, c'est 10 titres de champion du monde et 2 médailles d'or au JO, entre autres. Le colosse de 2,04 m et 131 kg espère bien arracher une 3e médaille d'or aux Jeux de Tokyo. Ce sera l'an prochain. Alors, on avait déjà eu, vous me direz, des documentaires sur le judoka. Mais pour la première fois, le sportif a accepté d'être filmé dans son quotidien, ou disons même dans son intimité, extrait en avant-première.
Le tirage au sort est compliqué pour Teddy. Les meilleurs poids lourds du monde sont présents à Montréal. Et il va devoir les affronter dans moins de 48 heures. Teddy vient d'avoir une bonne nouvelle. Son papa est arrivé à Montréal pour le soutenir. Il vit désormais seul en Guadeloupe. Et ils ne se sont pas vus depuis des mois.
France 3 l'a suivi pendant plus d'un an et demi. Le documentaire d'ailleurs s'appelle affectueusement Teddy, comme s'il était un de nos potes ou quelqu'un que l'on connaît bien. Alors Teddy a-t-il jeté un œil au montage pour soigner son image? Il est au micro d'Axel May du service des sports d'Europe 1.
Je ne suis pas là pour choisir les images qui me mettent en valeur ou pas. C'est vraiment le projet, c'est de suivre un sportif avec ses peines et ses joies, ses remises en question, de quoi il est fait, qu'est-ce qu'il fait pour se préparer. Voilà, l'hygiène de vie, les moments aussi où il n'y a pas d'hygiène de vie.
Alors beaucoup de ses proches sont dans le doc, il y a même sa psychologue et il y a sa femme qui doit partager son champion avec 66 millions de Français. Pourquoi a-t-elle accepté une telle intrusion dans leur vie privée? Elle répond au micro d'Axel May, toujours écouté.
On s'est connus, il était champion du monde pour la première fois, donc il n'était pas connu comme il l'est là. Mais je ne me sentais pas légitime parce que c'était tout nouveau ou parce que je suis trop timide. Ou là, maintenant, on est ensemble depuis 10 ans, on se connaît depuis 15 ans, on a 2 enfants.
Teddy ne manquait pas, c'est dans 3 jours, c'est lundi soir sur France 3.
Merci, bon week-end Martin, quand bon week-end. On vous attend lundi. Musique et messages personnels aux vacanciers, attention aux coups de soleil. Mon disque du jour, c'est L'Homme Pâle.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
Et si l'un des plus grands mystères criminels français trouvait une résolution aux États-Unis? Nous n'en sommes pas encore tout à fait là, mais depuis que l'affaire Dupont-Ligonnès fait l'objet d'un documentaire sur Netflix, les abonnés américains de la plateforme se passionnent pour ce fait divers, réagissent sur le site Unsolved Mysteries, les enquêtes extraordinaires, et croient le voir partout. Bonjour Anne-Sophie Martin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez beaucoup travaillé sur cette affaire, la disparition très organisée de Xavier Dupont-Ligonnès après le meurtre de sa femme, de leurs 4 enfants et des 2 chiens. C'était en 2011 à Nantes. Vous témoignez d'ailleurs longuement dans ce documentaire Netflix. Pensez-vous que l'exportation de l'affaire aux États-Unis peut vraiment faire progresser l'enquête, Anne-Sophie Martin?
Alors pourquoi pas? Écoutez-moi, à chaque fois que j'ai travaillé sur l'affaire depuis 2013, un certain nombre de fois, ou quand j'ai sorti mon livre, à chaque fois je me suis dit peut-être que, puisque moi je crois qu'il a survécu, je me dis peut-être qu'il va entendre quelque chose quelque part, que quelqu'un va le reconnaître quelque part. Bon, en revanche, après la destination, on va pouvoir en parler. Mais je me dis qu'effectivement, il faut un petit déclic, un petit miracle, quelque chose pour que cette histoire soit éventuellement résolue.
Pas mal d'abonnés américains réagissent, dont certains, évidemment, qui pensent l'avoir vu. Pour l'instant, il n'y a rien de vraiment décisif comme nettoyage. Mais c'est quand même une constante dans cette affaire. Tous ces gens qui pensent avoir vu Dupont, c'est à cause de son physique ou pourquoi est-ce qu'on le voit partout, alors, ce type ?
Ouais, tout à fait. Alors, ça rappelle quand même un petit peu l'affaire Godard, où il y avait eu pareil un nombre de signalements après la disparition du médecin assez invraisemblable. Dans l'affaire Dupont de Ligonnès, tout de suite, dans les premières 24 heures où on retrouve sa voiture, si vous voulez, abandonnée sur le parking d'un hôtel du Var, tout de suite, dans les 24 heures, il y a des gens qui voient dans un bus, il y a des gens qui voient une terrasse de café, il y a des gens qui voient cheminer dans la montagne. Voilà. Et donc, vous savez que quand même, ça fera donc bientôt 10 ans, mm-hmm. On se dirige vers le 10 ans l'année prochaine. En fait, c'est vrai qu'il a un physique assez... passe-partout, il est bel homme, hein, mais c'est un Français, il est brun, il a des cheveux un peu frisottés, mais il peut se les raser, du coup ça lui change en revanche totalement la physionomie. Voilà, c'est un homme un peu comme tout le monde, il est quand même grand, il est assez élégant. Moi je me souviens d'un de ses très proches qui m'avait dit, c'est vrai qu'il peut se faire pousser la barbe, raser les cheveux et tout, là on le reconnaît, changer de lunettes, voire pas porter des lentilles colorées, etc. Mais c'est sa démarche que je reconnaîtrais.
Ah, c'est vrai?
Un ami toujours qui me dit ça. Et donc, je me dis, ouais, effectivement, si lui dit ça, ça veut dire qu'on peut quand même imaginer qu'il change beaucoup de visage sans faire forcément ce qu'on a un peu fantasmé sur la chirurgie esthétique. Mmh.
Oui, on se souvient du fiasco de Glasgow, hein, la police écossaise qui était certaine de l'avoir arrêté sur dénonciation anonyme. L'ADN parlait, enfin bref. Cette histoire rend fou, on dirait. Pourquoi? Parce que pour l'instant, elle est insoluble?
Bah justement parce que enfin elle rend fou parce que il y a une espèce de course qui a été d'abord menée un peu trop tard par les enquêteurs de la police et qui ont été presque rattrapés par des internautes, hein, c'est ce qui est intéressant par rapport au volet américain là actuellement américain et d'ailleurs j'ai reçu aussi des messages d'Amérique latine, hein, c'est continental en fait.
Ah oui, c'est vrai, ouais.
Oui, et donc en fait, dès le début, les internautes, les hackers, les geeks français avaient déjà trouvé des éléments privés sur lui et sur sa femme que la police n'avait pas encore. Donc il y avait déjà eu un peu de tirage sur qui va arriver le premier. Quoi qu'il en soit, la police démarre assez tard. Elle ne rattrape jamais le temps perdu. Lorsqu'il s'en va, il n'est pas recherché, donc c'est très pratique, on peut à peu près prendre tous les moyens de transport. Et après, il y a toujours eu du retard. Et surtout, la police française a pensé tout de suite qu'en fait, il se serait suicidé. Ils ont pensé un peu ça trop vite. C'est un peu ce qu'on raconte dans notre série, nous, documentaire sur France Télé, qui a été diffusée il n'y a pas longtemps. Si vous voulez, voilà, après, le retard, en fait, ne peut pas être comblé presque. La police pense qu'il s'est suicidé, fouille en faisant des campagnes monstrueuses tout l'arrière-pays du Var, et ne trouve rien. Et les chasseurs que nous avons interviewés nous disent, mais nous, on a tellement ratissé partout que s'il était là, on l'aurait retrouvé. Mmh. On a retrouvé des chiens, d'autres choses, etc. Bon, voilà, donc il est vraisemblablement pas là.
Alors, Anne-Sophie Martin, vous le disiez, hein, vous avez réalisé des docs sur l'affaire Dupont de Ligonnès, notamment le mois dernier pour le 13h15, le dimanche de Laurent Delahousse sur France 2. Vous avez écrit un livre enquête en 2016, Le Disparu. Votre sentiment, vous l'avez déjà donné tout à l'heure, vous pensez qu'il est vivant, mais quelle est votre piste pour tenter de saisir les motivations de Xavier Dupont de Ligonnès, religieuses, psychiatriques quelle est votre hypothèse?
Le problème, c'est que je n'ai pas de boule de cristal, Pascal. Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Il y a un type un peu en bout de course, à 50 ans, qui a presque failli réussir, qui a peut-être même été un peu d'avant-garde sur ses créations de sites de commerciaux là, à travers la France, mais qui n'a pas mené son affaire. Il n'a pas mené à bien. Et ça fait des années qu'il tape un petit peu d'argent tout autour de lui. Là, les huissiers vont débarquer. Il va peut-être pas pouvoir garder sa maison. Ses enfants sont grands, ils les adorent, mais ils vont tout découvrir. Ils vont voir que papa, finalement, est un loser. Mmh. Parce que c'est ça, le truc, l'enjeu. Donc, je pense qu'il est extrêmement affectif. Religieux, bon, on a retrouvé quelques interventions sur des sites catholiques de sa part où il fait un petit peu de l'exégèse, mais c'est pas vraiment une foi, il dit qu'il a perdu la foi, etc. Mais effectivement, sa mère, qui elle, est très plongée dans un mouvement très, très radical et qu'on a pu soupçonner d'être sectaire, etc., le considérer comme élu. Donc lui, il a certainement vécu, en tout cas psychologiquement, avec l'idée que c'était bientôt la fortune, bientôt la réussite, etc. Et de fait, la vitrine fait que cette famille à Nantes vit de façon assez bourgeoise et très bien insérée et heureuse. Hein, espèce d'image, d'icône de la famille. Je pense que, pour revenir à votre question tout à l'heure, c'est aussi un peu pour ça que c'est devenu une affaire qui a déchaîné les passions. C'est que c'est une famille un peu bourgeoise française, catholique, iconique.
Oui, voilà. La photo était belle, effectivement. Restez là, s'il vous plaît, Anne-Sophie Martin. On va parler évidemment de la façon de faire de Netflix. C'est dans 2 minutes.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Unsolved Mysteries, on pourrait traduire ça par cold case, mais ça ne serait pas vraiment traduire. Les enquêtes extraordinaires en VF. Depuis qu'a été posté le 1er juillet le volet Dupont de Ligonnès, les Américains s'en emparent sur un site dédié et aussi sur Twitter. Écoutez par exemple cette vidéo.
Plus personne ne l'a vu ni entendu parler de lui. Mais il se pourrait qu'il vive en Amérique du Sud. Il parle couramment anglais, il parle couramment espagnol. Ce gars doit aller en prison pour toujours. Alors, Internet, fais ton boulot, nous devons trouver ce gars.
Anne-Sophie Martin, c'est une bonne nouvelle pour vous que le public américain s'empare de l'affaire Dupont-Ligonnès, ou alors il y a un risque que ça embrouille les choses, non ?
Alors, Netflix ne m'avait pas dit au moment du tournage qu'il ferait ce genre de site d'appel à témoins, ouais. Presque. Hein. Je n'avais pas été informée de ce développement numérique. Mais si vous voulez, en fait, c'est ni une bonne ni une mauvaise affaire. Encore une fois, il n'y a plus d'enquête en France. Hein, il n'y a plus de pistes, il n'y a rien, on ne sait pas du tout. C'est la disparition parfaite pour l'instant.
Oui, on est au point mort, là.
En quoi ça nuirait à l'enquête et au cours judiciaire de l'enquête. On sait qu'un jour, même si on ne le retrouve pas, un procès aura lieu en son absence. Il faudra bien le décider à un moment ou à un autre. Et puis, si on le retrouve ou s'il revient, car c'est toujours possible, ça sera différent. Mais ça ne nuit à rien, si vous voulez. Après, c'est un principe. Nous, journalistes, on n'est pas trop dans ce trip-là. Encore que je me souviens de... Enfin, il y a eu, vous savez bien, l'émission... Perdu de vue, etc. Mmh. Il y a eu un certain nombre d'émissions comme ça en France. Il y a eu aussi Au nom de la loi en Belgique qui était une émission assez proche de ce principe-là, d'appel à une certaine forme de citoyenneté coopérative, à dire si l'on voit. Alors, si vous voulez, juste pour vous dire, dans notre doc là sur France 2, dans 13-15, on a fait un parallèle avec une histoire américaine.
Ah bah oui, je voulais vous en parler. Passionnante, hein, passionnante cette histoire-là.
Voilà, elle est résolue quand même comme ça. Hein.
On va la développer un petit peu, hein, pour ceux qui ne savent pas. Il y a ce précédent assez troublant. En 71, John List s'évapore dans le New Jersey après avoir désingué toute sa famille. Il monte une mise en scène en envoyant des lettres pour prendre de l'avance sur les enquêteurs. On le retrouve 18 ans plus tard sous le nom de Robert Clark. Est-ce que vous croyez au... Est-ce que vous croyez au copier-coller ? Est-ce que Dupont-Ligonnès, ce serait... complètement inspiré de cette affaire américaine.
Alors, c'est ma consoeur, hein, Pauline Dordilly, qui était allée là-bas aux États-Unis, mais ce qui est troublant, si vous voulez, c'est les similitudes. Pareil, c'est ce nombre de lettres un peu à profusion écrites pour justifier l'absence et donc se laisser du temps et prendre de l'avance sur les recherches. L'abonnement au lait qui est résilié, comme lui, il a préparé les certificats de vente des voitures de sa femme et de son fils Arthur, Ligonnès. On retrouve la voiture abandonnée sur l'aéroport John Kennedy aux États-Unis et Ligonnès est sur un parking d'hôtel. Vous voyez, il y a énormément de similitudes. Alors, copycat, nous, on pense que c'est un peu poussé loin à l'affaire. Il y a des ressemblances, vraiment des similitudes, mais ce qui est sûr, c'est que en revanche, Ligonnès est allé plusieurs fois en voyage, il a même tenté de s'y installer pour vivre aux États-Unis, et qu'au moment, à un des moments où il est avec un ami, c'est ce que j'avais découvert pendant un témoignage, en fait, il était là. Donc, ça faisait la une de tous les canards américains.
Ben oui,
et lui, se promenait, visitait tous les États, etc. Donc, il connaissait, voilà.
Comment avez-vous trouvé le doc Netflix ? Et bon, vous connaissez parfaitement le dossier, mais je vous pose quand même la question, vous avez appris des choses ?
Je peux pas dire ça.
Non. Il y a des photos inédites quand même. Il y a des photos que vous ne connaissiez pas, non ?
Absolument. Voilà, mm-hmm. C'est ça. Au niveau visuel, il y a des photos très très bien. Après, je trouve que la version française, elle est un peu ratée au niveau du son. Hein. Donc ça, c'est un peu embêtant. Hein. C'est pas très bien travaillé. Je trouve qu'il est honnête. Ce doc, il est honnête. Mais vous savez, le non élucidé de France 2, il y a maintenant au moins 8 ans, il était à peu près pareil. Hein. Mm-hmm. Ce qui est fou, c'est à quel point cette histoire s'est figée. En fait, au mois d'avril 2011. Sauf que, nous, on en parlait tout à l'heure, il y a quand même eu 1000 signalements à la PJ de Nantes. Ils ont reçu 1000 signalements. C'est-à-dire que les témoignages là, de Netflix, ça ne fait que relancer tout ce qu'il y a eu auparavant, des hôteliers de Dieppe, un touriste français à Rome, ouais. L'affaire du monastère en 2019, et puis jusqu'à Glasgow. Quoi. Mm-hmm. Voilà.
Dernière question, Anne-Sophie ouais. Martin. Vous pensez que cette affaire Xavier Dupont de Ligonnès sera un jour résolue par l'intermédiaire de Netflix ou pas?
Moi, je pense, oui, j'espère en fait. Hein, je reste quand même un peu troublée par cette histoire. Bon, c'est Pierre Bellemare qui disait, je le dis chez vous, ouais. que les histoires les plus belles sont les histoires non élucidées, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de fin et qu'on s'interroge à presque à l'infini sur les enjeux, sur les raisons, sur les causes, sur tout ça. Ça trouble tout un entourage. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que les dommages collatéraux, sur toute la famille d'Agnès et des enfants, et puis toute sa famille à lui, enfin tout le monde est complètement perdu quand même depuis lors. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il n'y a pas...
On aimerait savoir, c'est évident. Merci oui. beaucoup. Merci oui. à vous, Anne-Sophie Martin, oui. d'être passée par Culture Média ce matin. Unsolved Mystery sur Netflix, et puis votre doc sur le 13h15, le dimanche, qui doit être disponible. Merci. Jarry, nouvel animateur fétiche de TF1, est annoncé dans Culture Média. Il présente un nouveau divertissement ce soir, Good Singers. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
TF1 semble bien s'être entiché de lui au point de lui confier la présentation en solo du nouveau Prime qu'elle lance ce soir, un divertissement musical, adaptation d'un format turc, Good Singers. Ce nouveau programme, elle l'a confié à l'humoriste, animateur, acteur, réalisateur, youtubeur, Jarry. Bonjour Jarry.
Bonjour.
C'est agréable, voyez.
Merci pour cette présentation.
Avant même de prononcer un seul mot, vous riez, c'est agréable. C'est ça l'effet Jarry?
Je ne sais pas, mais j'ai beaucoup rigolé à votre présentation. Mais en tout cas, ça correspond bien à ce que j'ai envie de faire.
Quoi donc?
De ne pas être mis dans une case, donc de faire un peu toutes les choses qui me donnent envie, et qui me font rire et qui m'apportent du bonheur au quotidien.
Mmh. Alors Jarry, c'est votre premier prime tout seul. Qu'avez-vous pensé quand TF1 vous a appelé pour vous le proposer?
J'ai d'abord pensé que c'était une blague. J'ai pensé que, d'ailleurs, ils m'ont demandé de les rappeler pour leur donner ma réponse. Et j'ai attendu 2 jours. Ils m'ont rappelé en me disant, on n'a pas eu votre réponse. J'arrive. J'ai dit, mais je pensais que c'était une blague. J'étais persuadé que c'était de l'humour.
Et après, est-ce que vous avez crié?
Après, j'ai pas crié. J'ai fait un petit cri intérieur, mais vous savez, je crie moins maintenant.
Oui, c'est ça.
J'ai moins d'énergie.
C'est un nouveau Jarry, on dirait. Pourquoi est-ce étonnant, y compris pour vous? Vous êtes pourtant depuis un petit moment dans la galaxie TF1, non? On a perdu Jarry. C'est une bonne nouvelle. Ce sont des choses qui arrivent avec la liaison.
Oui.
Ah, vous êtes là, on vous a retrouvé.
Oui, je suis revenu.
Vous avez bougé ou quoi? Faut plus bouger, Jarry.
Alors, je ne bouge plus.
Ouais,
je reste...
Vous êtes dans Génière Tout. Dites-moi, oui, je vous demandais pourquoi est-ce étonnant, ça fait un moment que vous êtes dans la galaxie TF1.
Oui, mais ce n'était pas quelque chose qui était évident pour moi au départ. Et puis, j'avais aussi envie de trouver un format qui corresponde aux valeurs que j'avais envie de défendre en télé. C'est-à-dire une émission populaire qu'on peut regarder en famille et puis quelque chose aussi qui soit feel good. J'avais pas envie d'un concours, j'avais pas envie de gens éliminés, de gens tristes. J'avais vraiment envie que ce soit dans un esprit positif.
Mmh, oui, c'est ça, vous voulez des ondes positives, hein, c'est un peu votre obsession. Good Singers, avec un sous-titre un peu faible, hein, à vous de trouver les bons chanteurs. Il n'est pas si simple à expliquer le concept, ou alors essayer.
Ah, il est très simple. Il y a 12 chanteurs qui sont des chanteurs de la vie de tous les jours. Parmi eux, il y a des médecins, il y a des parfumeurs, des vendeurs de voitures. Face à eux, il y a deux équipes de trois célébrités qui jouent chacune pour une association. Et ils doivent trouver, au travers d'une enquête menée en cinq étapes, trouver des indices pour déterminer qui est un bon chanteur et qui est un mauvais chanteur.
Mmh. Confirmation avec la bande-annonce.
Vendredi, six personnalités vont mener une enquête musicale complètement dingue.
Attention, des faux chanteurs se sont glissés parmi les bons et ils vont tout faire pour vous piéger. Indice, Manon, elle a le public le plus exigeant.
J'ai l'impression que c'est pas son look.
Je trouve qu'elle est très très agréable à regarder.
Attention, est-ce qu'elle peut nous jouer un tour ? Manon, c'est le moment d'entendre votre voix.
Et pardon, j'arrête, je vous ai coupé la chic. Ah oui, alors là, définitivement coupé la chic. Ah là là, il a encore bougé pendant qu'on écoutait la bande-annonce. Est-ce que Jarry est avec nous ou pas? Bon, bah, on va essayer de le retrouver. Hein. Ça vous prouve que c'est du direct, on ne vous ment pas. Bah oui, c'est tous les matins en direct, Culture Média. On va envoyer la pub, au moins là, elle sert à quelque chose.
Ah de merde
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Et on a retrouvé Jarry, cette fois sur un bon vieux téléphone, hein. Les valeurs sûres.
Exactement.
pardon pour ces petits problèmes, mais voilà.
C'est moi qui m'excuse surtout. J'aurais dû me déplacer, mais je suis en enregistrement, malheureusement.
Ah,
mais sinon, j'aurais adoré vous rencontrer. Je vous écoute tous les matins.
Ah, c'est vous, ok. Bah oui, bah. Alors, Good Singers, nouveau concept, hein, un divertissement musical ce soir, 21h05 sur TF1. Est-ce que vous êtes interrogé sur le style d'animation pour ce genre de prime? Ou alors, j'arrive, vous êtes dit, bah, on me prend comme je suis et je suis comme ça?
Bah, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, on me prend comme je suis. J'avais pas envie de jouer l'animateur parce que je pense que c'est un métier. J'avais envie d'arriver avec mon énergie, ma folie. Mais surtout, ce qui m'intéressait dans l'exercice, c'était d'être au service d'une émission. C'est-à-dire, là, j'étais pas le troubillon qui mettait l'ambiance. Je devais être un peu la locomotive qui emmenait l'émission. Et j'ai trouvé ça très intéressant.
Qu'avez-vous appris?
Bah, d'abord, j'ai appris qu'une émission, c'est plein de corps de métier, et que c'est une très grosse machine. Et j'ai adoré mettre les gens en lumière. J'ai trouvé ça super d'être celui qui juste passe les plats sans avoir à défendre quelque chose. Mmh. Je venais pas vendre mon spectacle, je venais juste faire passer un bon moment aux gens.
Parce que c'est fatigant au bout d'un moment la vente, non?
Des fois, ça peut être fatigant.
Vous aviez imaginé être quelqu'un d'assez grand public, Jarry, pour un prime sur TF1? La question se pose aussi.
Ben non, pas du tout. Je savais, il y a 7 ans, quand j'ai décidé de faire de l'humour et de commencer à monter sur scène et de faire de la télé, on me disait tout le temps, ah, mais t'es clivant parce que t'es homosexuel, tu vas faire peur à la ménagère. C'est une phrase que j'ai entendue pendant quasiment 2 ans, tu rempliras pas les salles.
Parce de la part
que
la France... de qui?
Bah des gens que je croisais, que ce soit des producteurs, que ce soit des directeurs de salles, les gens ils disaient non, les gens sont pas prêts. Et puis en fait c'est archi faux, on a tout le temps tendance à sous-estimer les gens et la preuve en est aujourd'hui, je remplis les salles, les gens sont adorables avec moi, quel que soit l'endroit où je joue, en France ou dans les pays francophones, j'ai jamais eu de problème, donc je suis plutôt fier et heureux de ça en fait.
C'est extraordinaire quand même d'entendre que un homosexuel risquerait de déplaire aux ménagères, d'ailleurs on dit encore ça, ménagères de moins de 50 ans.
Oui, bah oui. Mais moi-même j'étais le premier surpris parce que ma sexualité ne m'avait jamais gêné alors qu'avant j'avais enseigné dans plein de pays, dont le Maghreb, donc ça ne m'avait jamais posé de problème. Et là quand j'ai voulu faire de la télé, on m'a dit « Ah, tu vas voir, tu vas être trop clivant, tu vas impressionner, tu vas faire peur ». Et je disais « Mais n'importe quoi ». En fait, les gens, vous savez, ils sortent dans la rue tous les jours, ils sont confrontés à plein d'individus très différents. Le but, c'est de se respecter, de vivre ensemble, en fait.
Mmh. Ce soir, à partir de 21h05, vous allez vous regarder pour voir si c'est bien vrai. Est-ce que vous regardez facilement, d'ailleurs?
Ah non, mais alors déjà, j'ai fait quelques retakes sur l'émission. Et à chaque fois que je me vois, je me trouve absolument pas bon, pas juste. Mais je crois que c'est normal, on a du mal à se voir. Et puis c'est vrai que j'ai tourné ces deux primes, c'est passé tellement vite après le confinement que j'ai du mal à réaliser un peu ce qui s'est passé. Je le réalise quand les gens dans la rue me disent « Ah, on va regarder votre émission, on est content pour vous ». C'est ça en fait que je trouve beau dans tout ça. C'est que D'abord, c'est une nouvelle émission sur TF1. Et beaucoup de gens disent tout le temps, on voit tout le temps les mêmes choses, les mêmes personnes. Ben là, c'est une nouvelle émission avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis, on va découvrir des talents dans des métiers incroyables. Et je trouve qu'on redonne la télé un petit peu aux ondes tous les jours et je trouve ça très bien. Mmh. Et puis après cette période un peu tendue qu'on a vécue, bah là on va rigoler, on va être ému, on va être surpris, on va chanter, j'espère, dans les salons.
Et les salles à manger.
Et les salles à manger.
Pendant le confinement, certains ont fait des gâteaux, d'autres ont fait des abdos. Jarry, lui, a fait des vidéos. C'était sur votre chaîne YouTube et c'était avec vos enfants. Comment c'est venu cette histoire ?
Écoutez, pour être très honnête, c'est venu un jour, un matin, mon fils me dit « Papa, j'ai mon kiki qui grandit ». Et j'ai été tellement surpris par la question et tellement gêné que j'ai paniqué. Je lui ai répondu « Ah bah c'est quand tu mens ». Et après, je...
des décennies de psy devant lui, là. Vous êtes... Sérieusement.
Et je me suis dit « C'est pas possible, je peux pas faire ça ». Et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo par jour des questions... Et des choses que je vivais avec mes enfants, parce que j'ai des jumeaux. Et puis c'est parti très vite sur Internet et j'ai été le premier étonné. Aujourd'hui, on est à 47 millions de vues
sur
l'ensemble des vidéos, ce qui est absolument énorme. Et j'ai trouvé ça super de partager mon quotidien de papa avec mes deux enfants, sans qu'on les voit, évidemment.
Oui, c'est ça, on ne les voit pas. On va écouter un extrait. Bon, évidemment, c'est assez visuel, mais le son veut dire aussi quelque chose. Extrait d'une de ces vidéos, c'est la fête des pères.
Aujourd'hui, les enfants, c'est la fête des pères. Qu'est-ce que vous voulez dire à papa ?
Je t'aime. Je t'aime.
Oh, merci mes bébés. Moi aussi, je vous aime.
Voilà, avec la participation, j'imagine, très involontaire de Lara Fabian. C'est vrai, Jarry, qu'on les voit pas, hein, vos enfants, on les entend hors champ. Cette série de vidéos va devenir une BD.
Tout à fait.
On dirait que vous avez soif de projets tous azimuts, non ? Comme si vous dépêchiez de faire le plus de choses possible.
En fait, j'ai tellement peur de mourir, mais j'ai tellement peur de m'ennuyer. Je dis souvent, j'ai remarqué que les gens, quand ils vont mourir, ils disent tout le temps la même phrase. Ils disent « j'aurais voulu faire ça, j'aurais voulu faire ça ». Et moi, c'est une phrase que je n'ai pas envie de dire. Donc, j'ai envie de faire et de réaliser tout ce que j'ai en tête. Alors, c'est épuisant pour les gens qui vivent avec moi, hein, parce que je suis vraiment un hyperactif. Mais je n'ai pas envie d'avoir de regrets. Je n'ai pas envie de rester sur « si j'avais su, j'aurais fait ». Je n'ai pas envie de dire ça.
Mmh. Je reviens sur la participation de vos enfants à cette vidéo. Ce sont des jumeaux. Quel âge ont-ils ?
Ils ont 4 ans.
Il se trouve qu'ils ont été conçus aux États-Unis par GPA. Si je me permets d'en parler, c'est que vous le faites souvent vous-même. Et ça paraît compliqué, cette histoire, parce qu'évidemment, la gestation pour autrui n'est pas reconnue en France. Donc, c'est une situation difficile que vous vivez.
C'est une situation difficile, oui, parce que j'aimerais que la France soit moins hypocrite et donne des papiers, en tout cas aux enfants dont les parents sont français. Mais surtout, et surtout ce que je défends et ce que je dis, c'est qu'avant d'avoir recours à la GPA, j'aurais aimé que l'adoption dans ce pays soit beaucoup plus simple pour les couples homosexuels et pas que je vive le parcours que j'ai vécu de combattant pendant 5 ans et pour qu'on m'explique à la fin que j'aurai un enfant à particularité. Je trouve ça horrible, en fait. Et je trouve que la seule alternative qu'on ait, c'est de faire une GPA. Je trouve ça vraiment dommage. Quand on sait le nombre d'enfants en France qui attendent pour être adopté, c'est vrai que ça peut me mettre très en colère.
Mmh. Tout marche bien pour vous, Jarry. J'ai pas encore parlé de votre nouveau spectacle dont la tournée a été interrompue par le virus, mais qui va reprendre un de ses jours. On espère tous, du coup.
J'espère vraiment.
Ni de vos projets cinéma. Que faites-vous de ce succès et que faites-vous de votre influence ?
Je sais pas si on peut parler de succès. J'ai beaucoup de mal avec ce mot-là. En tout cas, je suis tellement content de voir que mes semaines ne se ressemblent pas et que le lundi, je peux faire une émission de télé, le mardi, un film, le mercredi, être sur scène. Je trouve que cet arc-en-ciel de possibilités, en tout cas, me donne envie de me lever et de me coucher le soir en me disant que j'ai fait quelque chose de mes journées. Et après, cette influence, je ne sais pas. En tout cas, j'ai envie de me battre contre le communautarisme. J'ai envie de me battre contre ces gens qui sont convaincus qu'on est différents et qu'on ne peut pas vivre ensemble parce que ça m'est insupportable. Ce n'est pas les valeurs que m'ont enseigné mes parents. Et moi, je crois que la force, elle est au contraire dans la diversité. Donc, j'ai envie d'être en résistance par rapport à tout ça.
Mmh. Il y a encore un type d'émission que vous n'avez pas encore pratiqué et qui vous tenterait ?
Un type d'émission, je ne sais pas.
Bon, vous avez suffisamment à faire remarquer pour l'instant.
Oui.
Jarry dans la vie, pourquoi ? Parce que vous vous appelez Anthony Lambert pour de vrai, alors ?
Oui. Ben parce que c'est le nom de famille de ma maman, mm-hmm. et comme elle est la dernière de sa famille, elle m'a dit le jour où elle s'éteint, son nom de famille s'éteint avec elle. Donc j'ai décidé à 19 ans de m'appeler Jarry.
Eh ben c'est un bel hommage. Demain matin, vous allez attendre les audiences avec impatience, j'imagine, parce que c'est le jour... Ben,
j'ai pas envie de mettre la pression avec ça. J'aimerais que les gens, surtout, soient contents, et puis que les gens les regardent en famille et qu'on puisse parler, quoi, que ce soit intergénérationnel et que voilà, qu'on rigole avec ses parents, ses grands-parents et qu'on passe un moment en famille.
Good Singer, ce soir, 21h05 sur TF1. Une deuxième émission est déjà tournée et là, vous êtes en train de mettre en boîte des choses secrètes.
Voilà. Et je voulais vous dire, vous avez une voix qui fait du bien.
Oh là !
Voilà.
Ah bah,
c'est gratuit, mais je vous le dis. Voilà.
Enfin, c'est gratuit que vous croyez.
Non, mais voilà, je vous dis que tous les matins, ça fait du bien. Vous avez une voix posée, pas agressive. Des fois, j'aimerais que vous soyez là pour m'endormir. Voilà, je vous le dis.
Bon, écoutez, on peut passer un deal, hein, s'il n'y a que ça.
Allez. Oh, j'ai un petit peu de temps.
Merci beaucoup, Jarry. Merci d'être passé par Culture Média. Bonne chance et bonnes vacances à vous.
Oui.
Nous avançons doucement vers l'heure culture de Culture Média. Et l'invité s'appelle Woodkid. Impatience. À tout de suite.